France Inter.
Vous écoutez France Inter et il est 19h. Et 19h, c'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, l'alerte rouge cyclonique sur Mayotte maintenue jusqu'à demain soir. La tempête s'éloigne certes lentement, mais les pluies resteront abondantes pendant plusieurs jours avec l'arrivée d'un nouvel épisode de mousson. Faut-il suspendre la réforme des retraites, l'abroger, la décaler ou surtout ne pas y toucher? Un jeu d'équilibriste pour François Bayrou qui tente d'éviter la censure à deux jours de sa déclaration de politique générale. Un appel à témoins dans le Gard après l'agression au couteau d'une joggeuse grièvement blessée. Et puis nous verrons comment Mark Zuckerberg, le patron de Meta, durcit ce week-end encore sa politique qualifiée d'anti-woke. Et puis de la musique classique. Pour terminer, avec Stéphane Capron, nous célébrerons les 10 ans de la formation, les concerts de la loge. Et puis le temps de demain, lundi, Céline Dacosta, sec, froid et ensoleillé.
Oui, un temps plutôt calme et un froid qui s'installe en ce début de semaine.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. À deux jours de sa déclaration de politique générale, François Bayrou doit donc composer avec les injonctions contradictoires des groupes politiques du Parlement. Et le gros caillou dans la chaussure du Premier ministre, eh bien, c'est le dossier des retraites. Chez les LR, Gérard Larcher ne veut entendre parler ni de suspension de la réforme, ni d'abrogation. Or, à l'inverse, ce matin encore, Olivier Faure, au PS, réclamait l'inscription du mot « suspension » dans le discours de politique générale. Bonjour, bonsoir, Julien Nenny.
Bonsoir.
Service politique de France Inter. Mardi prochain, donc, les annonces sur les retraites pourraient déterminer la durée de vie du gouvernement Bayrou.
Oui, avec, pour François Bayrou, deux obstacles majeurs à franchir. D'abord, sa déclaration de politique générale, vous l'avez dit. C'est mardi 15h à l'Assemblée, avec dans la foulée la motion de censure annoncée par LFI et dont le vote est prévu jeudi. Sur cette première échéance, je suis résolument optimiste, confiait aujourd'hui un proche du Premier ministre, persuadé que ni le RN ni le PS n'auront intérêt à censurer une deuxième fois. Mais attention, même si le gouvernement sauve sa peau la semaine prochaine, au même moment, l'examen du budget reprendra son cours au Sénat, et c'est là que ça se corse. À la fin, si le Sénat et l'Assemblée ne s'entendent pas, ce qui est probable, on va tout droit vers un 49-3 mi-février, et une nouvelle motion de censure, l'avenir du gouvernement se jouera là, d'autant que les concessions que François Bayrou pourrait accorder à la gauche sur les retraites vont mécaniquement déplaire à la droite, d'où l'avertissement ce soir de Laurent Wauquiez pour qui la suspension de la réforme serait, je cite, irresponsable.
Et la suspension, c'est pourtant la solution privilégiée à ce stade.
Oui, au moins pour arracher la non-censure du PS, en attendant donc de tenter de calmer la droite. Dans le détail, l'idée serait de suspendre l'allongement de l'âge de départ à 64 ans, le temps que les partis et les syndicats trouvent une autre solution, notamment sur la pénibilité, pour les carrières hachées ou pour la retraite des femmes. Cette suspension, si elle durait 6 mois, par exemple, coûterait près de 2,5 milliards d'euros, que certains à gauche pensent piocher dans les 22 milliards de ce qu'on appelle le fonds de réserve pour les retraites. Une idée qui ne vient pas de nulle part. Devinez qui présidait ce fonds il y a encore 3 semaines? Un certain Éric Lombard, le ministre de l'économie au cœur des négociations.
Et avant son discours de politique générale mardi à 15h, donc, François Bayrou aura demain un autre rendez-vous important aussi avec les syndicats agricoles qu'il recevra à Matignon. Des syndicats échaudés par un an de promesses, dont une loi d'orientation agricole toujours repoussée. Et à quelques semaines du salon de l'agriculture, le 22 février, les paysans menacent et pas question d'aller renégocier quoi que ce soit demain avec le Premier ministre. Il faut juste établir un calendrier, prévient Pierrick Aurel. Il est le président des jeunes agriculteurs.
Nous, ce qu'on attend très clairement, c'est qu'il positionne l'agriculture comme prioritaire sur le premier trimestre et qu'il le fasse le lendemain dans son discours de politique générale, qu'il n'attende pas le salon pour nous expliquer ce qu'il attend de l'agriculture en tout cas. Nous, s'il nous explique qu'on fera une partie de la LOA au mois de mars, qu'on fera les autres PPL au printemps 2025, ça va pas du tout nous plaire parce que on est loin de ce qu'on attend. Donc là, il faut qu'il nous dise sous 3 mois, on a tout ça, on a un budget qui ne bouge pas pour l'agriculture. Charge au gouvernement de trouver des équilibres politiques. Moi, je ne suis pas roulé par terre pour être Premier ministre. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais en tout cas, j'ai cru comprendre qu'il avait voulu le poste. Donc, il a une responsabilité en tant que Premier ministre qui est de donner de la cadence, des objectifs à très court terme parce que les agriculteurs n'accepteraient pas de se sentir floués une fois de plus après un an de mobilisation parce qu'on ne peut plus attendre.
Le président des jeunes agriculteurs avec Marion Ferrer. Les Mahorais calfeutrés chez eux ou bien dans des hébergements d'urgence. Pas de victimes pour l'heure. La forte tempête tropicale d'Ikeledi s'éloigne. Mais les torrents de boue perdurent, notamment dans le sud de l'île. L'alerte rouge est maintenue jusqu'à demain soir, justifie le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville.
Je pense qu'il ne faut pas lever cette alerte rouge. J'ai pris la décision de la conserver pour deux raisons. La première, vous le constatez, on a toujours des vents qui sont extrêmement forts. On a eu des pluies qui le sont tout autant. On risque d'avoir des phénomènes d'écoulement qui vont durer encore tard dans la journée, le temps que ce ruissellement qui vient des hauteurs redescende vers la côte. Donc on risque d'avoir des inondations importantes. Deuxièmement, on va rentrer à partir de demain dans un événement de cache-casie, un événement de mousson, avec des pluies très importantes sur un territoire qui est très fragilisé. La nature a été scarifiée. Je pense que tous nos compatriotes sont épuisés de ce mois qui vient de s'écouler. On a aussi des infrastructures qui ont été très touchées, à la fois les habitations, les infrastructures publiques. Par conséquent, on a un territoire qui est très fragilisé. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de maintenir cette alerte rouge jusqu'à demain soir. Et nous ferons un point avec Météo France pour voir si cette alerte rouge pourra être levée le plus rapidement possible.
Le préfet François-Xavier Bieuville au micro de Mayotte, la première. Le placement en centre de rétention est prolongé de 26 jours pour les influenceurs algériens connus sous le nom de Doualemn. À l'origine d'une vidéo litigieuse sur TikTok, il avait été expulsé jeudi vers Alger, aussitôt renvoyé vers la France. Et ses avocats font appel de cette décision du juge des libertés et de la détention. Un appel à témoins dans le Gard après l'agression au couteau d'une joggeuse de 44 ans. Ça s'est passé hier en plein jour devant des témoins dans un parc de Vergèze. C'est dans le Gard. La femme est grièvement blessée et l'agresseur toujours en fuite, Aurélien Tirard.
L'agression est aussi soudaine que violente. Vers 11h hier, alors qu'elle fait son jogging, la femme est attaquée par derrière par un homme. Il lui assène d'abord des coups de poing. Elle tombe et c'est là qu'il lui donne des coups de couteau dans le dos et au niveau de la gorge. Des personnes qui assistent à la scène dans le parc font fuir l'agresseur. La victime, rapidement prise en charge, voit d'abord son pronostic vital engagé. Son état s'est depuis stabilisé. Alors pourquoi cet homme s'en est-il pris aussi violemment à cette joggeuse? Est-ce une agression totalement gratuite? L'enquête devra le déterminer. Il n'y a pas de mobile terroriste à ce stade, nous précise une source proche de l'enquête. Hier, une soixantaine de gendarmes ont fouillé les environs du parc, assistés d'un hélicoptère, d'une équipe cynophile. L'homme reste introuvable, ses motivations inconnues et n'est pas identifié. C'est pourquoi la procureure de Nîmes lance un appel à témoins. Toute information utile doit être communiquée aux gendarmes de la section de recherche de Nîmes.
Un nourrisson est mort aujourd'hui dans l'incendie d'un immeuble d'habitation à Elbeuf, dans l'agglomération de Rouen. La mère était absente au moment de l'incendie. Ses trois autres enfants qui se trouvés dans le logement en feu ont pu être secourus. La piste d'un incendie accidentel est privilégiée.
France Inter, Éric Delvaux.
Benjamin Netanyahou a discuté aujourd'hui avec le président américain Joe Biden. Il lui a fait part des progrès. Progrès, a-t-il dit, dans les négociations en vue de parvenir à un accord sur la libération des otages détenus dans la bande de Gaza. Les incendies continuent de gagner du terrain autour de Los Angeles. Au moins 16 morts, bilan provisoire, et le vent qui se renforce n'arrange rien. Bonsoir Sandrine Eto'o-Handeg.
Bonsoir Eric.
Vous êtes en direct d'Altadena, un comté de Los Angeles. Plus de 150 000 personnes sont contraintes de fuir les flammes et surtout leurs habitations, ce qui n'est jamais facile à vivre.
Oui, effectivement, les portables ne cessent de vibrer pour signaler en temps réel de nouvelles évacuations dans des secteurs qui étaient épargnés jusqu'à présent, autour des deux foyers principaux, Pacific Palisades au sud-ouest de Los Angeles et à Eaton au nord-est. Ça veut dire en effet des centaines de milliers de personnes sans domicile, soit parce qu'il a été détruit, soit parce qu'elles ont reçu l'ordre d'évacuer de manière préventive. Alors ici à Altadena, il y a ceux qui peuvent être hébergés par des proches, mais il y a aussi beaucoup de sinistrés dans les hôtels des environs. On voit ces familles avec des valises, des sacs en plastique, des cartons, pour celles qui ont eu le temps et la possibilité de prendre des affaires. Et souvent, elles sont parties sans rien pour les autres. Si vous êtes assuré, ce sont les compagnies d'assurance qui prennent en charge les nuits d'hôtel. Et pour les autres, et c'est une réalité en Californie, eh bien c'est de leur poche. Ça commence à peser sur le budget, d'autant que certaines familles dénoncent ces hôtels qui ont gonflé leurs prix ces derniers jours. Le marché est exorbitant ici. Rien qu'à Los Angeles, les loyers ont quasiment doublé en 10 ans. Et profiter de la détresse de ces victimes des feux de forêt Forez, c'est un grand classique. C'est pourquoi hier, le procureur général de l'État a jugé bon de rappeler que le gonflement artificiel des prix était un crime passible de 1 an de prison et 10 000 dollars d'amende. Et il a mis en garde les plateformes de location.
Sandrine Netoa Andegg, envoyée spéciale de France Inter dans la région de Los Angeles, avec les moyens de Laurent Macchietti. Et Donald Trump s'en est pris une nouvelle fois aujourd'hui aux autorités californiennes, accusées de très mal gérer cette lutte contre les incendies. Mark Zuckerberg, lui, poursuit son virage à droite, toute. Le patron de Meta avait déjà annoncé la semaine dernière la suppression du fact-checking sur Facebook et Instagram, avec aussi une politique de modération bien plus souple désormais. À moins de 10 jours de l'investiture de Donald Trump, Mark Zuckerberg était l'invité ce week-end du podcast du libertarien Joe Rogan. Bonsoir, Laurie Licarive.
Bonsoir.
Joe Rogan, le podcast le plus écouté au monde. Eh bien, le patron de Meta a poursuivi son offensive qualifiée d'anti-woke.
Quasiment 3 heures d'entretien au micro de l'animateur, un fervent soutien de Trump. T-shirt noir et pendentif doré, Mark Zuckerberg évoque sa passion pour les arts martiaux, le MMA notamment, qui a changé, dit-il, son regard sur le monde de l'entreprise.
Cette espèce d'énergie masculine est positive. Elle est partout dans la société, mais le monde de l'entreprise est comme émasculé. Je crois au mérite d'une culture qui valorise un peu plus l'agressivité.
Plus de masculinité et moins de diversité, Meta abandonne son programme interne pour l'égalité et l'inclusion, érigé par le camp conservateur en incarnation du wokisme. Zuckerberg en profite pour décocher quelques flèches en direction des démocrates. Au micro de Joe Rogan, il raconte comment, pendant l'épidémie de Covid, l'administration Biden a fait pression sur Facebook pour supprimer certains contenus, même humoristiques, sur les effets secondaires des vaccins.
Ils nous ont appelés pour nous hurler dessus. Et nous, on était là, on ne va pas supprimer des choses qui sont vraies.
Une façon de marquer un peu plus son allégeance à Donald Trump, à qui il redit toute sa confiance pour défendre le secteur américain de la tech face aux tentatives de régulation menées par l'Europe.
L'Aurélie Carive. Un sommet à Islamabad au Pakistan pour réaffirmer le droit des jeunes filles d'accéder aux études et à l'éducation, car ce n'est pas le cas dans plusieurs pays du monde. La pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, a pris la parole pour dénoncer les privations que les talibans infligent aux jeunes afghanes. Reportage à ce sommet d'Islamabad avec notre correspondante Sonia Ghezali.
Les filles privées d'éducation se voient voler leur avenir. Déclaration de Malala devant un parterre de dirigeants d'État et d'érudits religieux musulmans. Celle qui milite depuis son plus jeune âge pour l'éducation et qui a failli mourir sous les balles des talibans pakistanais il y a 13 ans, a fait du sort des Afghanes privés de leurs droits fondamentaux le cœur de son intervention.
Les talibans ne considèrent pas les femmes comme des êtres humains. Ils dissimulent leurs crimes sous des justifications culturelles et religieuses.
Malala appelle la communauté religieuse intellectuelle étatique musulmane à reconnaître qu'un système d'apartheid entre les sexes est en place en Afghanistan. Elle appelle à d'autres actions fortes.
Soutenez le traité sur les crimes contre l'humanité, un effort mondial historique visant à codifier l'apartheid entre les sexes dans le droit international et à tenir les talibans pour responsables. Il faut également que les érudits musulmans s'unissent pour contester et dénoncer ouvertement les lois oppressives des talibans.
Je ne peux pas imaginer, dit Malala, qu'une fille ou qu'une femme afghane soit forcée de retourner dans un système qui lui refuse tout avenir. Une déclaration forte alors que le Pakistan a relancé depuis quelques semaines les expulsions des Afghans sans papier sur son sol.
Sonia Ghezali, correspondante au Pakistan. Parmi les bonnes résolutions du mois de janvier, peut-être avez-vous décidé de manger un peu moins. Alors on s'intéresse ce soir au jeûne intermittent. C'est l'alternance de périodes de jeûne et d'alimentation normale. Les adeptes y voient parfois des effets plutôt positifs. C'est ce que semblent d'ailleurs valider les scientifiques. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Positif, sauf que les chercheurs chinois viennent de découvrir que ce jeûne intermittent limitait la pousse des cheveux.
Les études scientifiques l'ont montré, se priver de manger quelques heures par jour modifie l'activité de nos cellules souches. Et pour mieux observer ce mécanisme mal connu, les chercheurs de l'université de Zhejiang au sud de Shanghai se sont intéressés à la repousse des cheveux avec un test d'abord sur des souris rasées, soumises soit à un jeûne, soit nourries normalement. Les souris qui ont jeûné n'ont pas retrouvé leurs poils 30 jours après. Expérience similaire chez l'homme, 49 ont été rasés sur une petite surface du crâne. Résultat, pour ceux soumis au jeûne, la repousse a été 18% moins forte. Et les chercheurs ont mesuré dans le sang que ces hommes brûlent davantage de gras. C'est ce gras qui vient s'accumuler autour des cellules souches responsables de la repousse. Bref, on maigrit, mais il faut choisir, semble-t-il, entre sa santé et son apparence capillaire.
Et pour autant, Rémi, les scientifiques estiment que ce jeûne intermittent a aussi ses avantages.
Oui, parce que les chercheurs le rappellent, des études ont aussi montré des effets bénéfiques sur d'autres cellules souches, des intestins, des muscles. Le jeûne intermittent protège aussi le cœur. Quant à la chute des cheveux, le phénomène pourrait être endigué, écrivent les auteurs de l'étude. Ils préconisent d'ailleurs de tester un traitement aux antioxydants qui atténuerait l'effet sur les cellules souches capillaires.
Rémi Brancato, l'Open de tennis d'Australie. 4 Français sont qualifiés pour le deuxième tour. Demain, la Française Caroline Garcia rencontrera la Japonaise Naomi Osaka. Et c'est un retour pour la Française qui avait rangé sa raquette il y a 4 ans, épuisée mentalement. Et bien désormais, Caroline Garcia veut tourner la page de ce burn-out qu'elle a révélé sur les réseaux sociaux le 27 septembre dernier. Fabrice Abgral.
Et ce jour-là, Caroline Garcia a dévoilé un mal-être d'une sincérité désarmante. La Lyonnaise a mis des mots sur ce qu'elle ressentait. Et oui, clairement, elle était en dépression. Elle avait perdu la motivation et elle ne prenait plus aucun plaisir sur le court, même quand elle gagnait. Chaque match était un cauchemar. Elle ne supportait plus son métier et elle n'aimait pas non plus la personne qu'elle était devenue. Elle a eu besoin de se retrouver, de faire le point sur sa carrière, sur son envie ou non de continuer à un moment où le tennis n'avait plus beaucoup de sens pour elle. Caroline Garcia ne supportait plus la pression de la compétition et celle qu'elle se mettait. Caroline Garcia avait établi une relation toxique avec le tennis à tel point qu'elle a envisagé de tout arrêter. La Lyonnaise a fait une pause car elle avait besoin de savoir si elle aimait encore son sport. Alors elle a pris son temps, pris le recul nécessaire pour comprendre, puis elle a repris le tennis progressivement. Les sensations étaient encore là, alors elle a décidé de revenir, mais sans aucune certitude. Caroline Garcia est aujourd'hui 67e mondiale, alors qu'il y a un an et demi, elle était encore 4e.
Et un abandon aujourd'hui dans le Vendée Globe. Éric Bélion a dû mettre fin à son aventure parce que son accroche de voile ne tient plus. À 2 jours de l'arrivée au Sable d'Olonne, Charlie Dalin est en tête. Il maintient son avance sur Johan Richaume. Et je vous présente ce soir un participant du Vendée Globe que vous ne connaissez certainement pas. Il s'appelle Stéphane Sorgnard. Il vient seulement de quitter les côtes argentines. Et si son nom ne vous dit rien, c'est parce que ce Havrais est l'un des 600 000 participants à Virtual Regatta, le jeu vidéo où vous faites la course, mais uniquement sur Internet. Reportage de Lila Lefebvre.
Depuis 2 mois, le quotidien de Stéphane est rythmé par un voilier, des mers et des vents numériques.
Dès le matin au réveil, ou des fois quand il m'arrive de me réveiller la nuit, on regarde les écrans régulièrement, quand les bulletins météo peuvent évoluer, pour s'adapter au niveau des routes à suivre.
Le métier de Stéphane, c'est justement d'orienter des navires sur un ordinateur. Il est directeur de port à la capitainerie du Havre, où derrière son écran, il ordonne au porte-conteneur l'heure, la trajectoire d'arrivée, un peu comme sur Virtual Regatta.
Et on est un peu sur l'eau, même si c'est beaucoup plus cool pour nous quand même.
Et dans le port du Havre, notamment les bureaux, le jeu est devenu un phénomène, s'amuse Stéphane.
Il y a un engouement qui se fait avec les connaissances au boulot, parce qu'on est quand même les anciens marins, donc ça nous interpelle, et faire le tour du monde virtuellement, quand on l'a fait un petit peu sur l'eau, eh bien, ça interpelle en fait.
Est-ce qu'on se charrie à la capitainerie entre les différents concurrents ?
Ah, il y a complètement, il y en a qui sont mauvais joueurs. Donc en fait, bah, on sent qu'ils sont titillés quand ils se font rattraper. Et donc on se donne des conseils, mais pas trop.
Au dernier classement, il était 50 000e de la course. Mais heureusement, Stéphane s'est fixé comme objectif de finir le Vendée Globe et pas de le gagner.
Lila Lefebvre, ici Normandie. On va terminer ce journal en musique avec le Concert de la Loge. C'est l'un des orchestres incontournables de la scène classique. La formation fête ses 10 ans. Et le répertoire de cet orchestre va de la musique baroque jusqu'à celle du début du XXe siècle pour un public le plus large possible. Stéphane Capron, le Concert de la Loge s'inscrit aussi dans la longue histoire d'un autre orchestre du XVIIIe, celui-là. Un orchestre qui lui aussi avait été novateur en son temps.
Il s'agit du Concert de la Loge Olympique qui a brillé entre 1782 et 1789. Mais Julien Chauvin a dû abandonner le mot « olympique car il est désormais la propriété du Comité international olympique. Cela n'a pas empêché le concert de la loge de faire rayonner cette musique et d'aller à la rencontre d'un large public.
C'est vraiment une de nos missions, un de nos devoirs, comment la transmettre à des jeunes et aussi parfois à un public qui n'est pas l'habitude d'écouter cette musique qu'on appelle classique, qui est un terme tellement réducteur, qui fait tellement de mal à la musique, parce que la musique de Mozart, elle n'a rien de classique en fait. Si on l'écoute bien, elle est absolument originale, neuve, géniale.
C'est le cas aussi des 4 saisons de Vivaldi que le concert de la loge propose dans une version chorégraphiée avec des danseurs de hip-hop. Et en 10 ans, Julien Chauvin a aussi fait découvrir des œuvres du 18e totalement oubliées.
Pour vous donner une idée, par exemple, en quatuor, entre 1770 et 1800, il y a 2000 quatuors qui ont été créés, qui ont été joués, qui ont été édités. 2000, et on en connaît 25.
Le concert de la loge vient d'enregistrer en première mondiale sur instrument historique l'opéra Iphigénie en Aulide de Gluck et il prépare d'autres inédits pour les 10 ans à venir.
Et pour ces 10 ans, donc, le concert de la loge jouera mercredi prochain au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Donc, le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Il va faire un peu plus froid demain matin.
Oui, avec des gelées généralisées et parfois fortes. On attend moins 7 à moins 3 degrés du nord-est au sud-ouest, moins 7 à moins 9 même en Auvergne, moins 4 à 1 degré sur le nord-ouest, des valeurs bien froides qui, sous la grisaille matinale, provoquent encore des brouillards givrants et seront surtout présents demain matin au nord de la Loire et dans les plaines du sud-ouest. Mais après dissipation de ces brumes, le soleil devrait être un petit peu plus présent, même s'il restera voilé des pays de la Loire ou Hauts-de-France.
On peut tout de même espérer du soleil dans l'après-midi.
Oui, on aura juste ici ou là quelques grisailles, des nuages bas qui vont persister sur le sud-ouest, la région lyonnaise ou la pointe nord. Soleil voilé par endroits, mais globalement, c'est vrai, l'après-midi sera calme et plutôt lumineuse. Elle sera également froide, avec 0 à 5 degrés en général, 8 à 15 degrés dans le sud-est.
Les prévisions de Céline Dacosta.